France Inter.
Franceinter.com.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir, les intentions sont bonnes sans doute, mais elles ne suffisent pas. Il faut les moyens, notamment humains et financiers, de les mettre en œuvre. Et c'est là que le projet semble pour le moins fragile. Voilà, en quelques mots, bien sûr, c'est une synthèse, le résumé de plusieurs centaines de messages reçus depuis la fin de la matinée, après l'annonce par le président du plan, donc destiné aux banlieues et à leurs habitants, notamment les plus jeunes, dont on vient de vous rappeler les principales mesures dans le journal de 19h. Question donc ce soir sur ce plan banlieue, et puis au-delà, l'enjeu de la situation des quartiers et cités des zones dites sensibles dans le débat des élections municipales. C'est là qu'un certain nombre d'entre vous, et les internautes l'écrivent, ont bel et bien l'intention de faire connaître leurs sentiments. En direct avec nous pour débattre, vous répondre également, bien sûr, Mohamed Mechmash, président d'AssezLeFeu. AssezLeFeu, on en parlait aussi, on les entendait dans le journal de 19h d'Alain Passerelle. Association collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis. AssezLeFeu qui, soit dit en passant, a publié Le Réveil des Oubliés aux éditions Scali. Avec également Pascal Canfin, qui est journaliste au mensuel Alternatives économiques, mensuel qui vient de faire paraître un dossier intitulé précisément « Gouverner la ville », spéciale élection municipale 2008. Et enfin Thomas Sauvadet, chercheur associé au laboratoire Sésame, auteur de « Jeunes dangereux »,« Jeunes en danger » aux éditions Dilecta. Et puis « Le capital guerrier », »,« Concurrence et solidarité » entre jeunes de cité chez Armand Collin.
Le téléphone sonne.
Beaucoup d'appels, je vous l'ai dit. On va commencer avec Bruno. Bonsoir. Vous êtes à Mantes-la-Jolie et dans votre courriel, au tout début, vous écrivez que vous êtes enseignant dans un collège du Val-Fouré, c'est cela ?
Tout à fait.
On vous écoute, Bruno. Bonsoir d'abord.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis enseignant depuis 12 ans. Si j'ai fait le choix de devenir enseignant, c'est pour le service public dans ces quartiers depuis 12 ans et j'étais volontaire. Parce qu'il y a quantité de choses à faire et c'est là qu'il y a des besoins. Le plan banlieue aujourd'hui, comme le dit la FSU, ne répond ni aux attentes ni aux enjeux. Il y a des manques très importants, de la même façon que la réforme des ZEP en 2006 n'était absolument pas satisfaisante. Je voudrais partir d'une phrase simplement dans le discours qui me semble lourde de sens. C'est « on ne parlera plus de quartiers sensibles, on parlera de quartiers populaires où il fait bon vivre ». C'est toute la question du mérite, me semble-t-il, qui est en jeu. S'en sortir, c'est sortir ces jeunes de ces quartiers pour qu'ils puissent arriver à faire quelque chose. Mais les autres, quelle ambition on a pour les autres? Cela veut dire, au travers de cette phrase, que l'on renonce à toute mixité de ces quartiers. La loi SRU n'est plus à l'ordre du jour. Au profit d'une mixité des élites qui permettrait d'afficher des résultats et de s'exonérer de ses responsabilités vis-à-vis de ses quartiers. Donc ma question, c'est quelle ambition pour les autres élèves ?
Ceux qui, effectivement, ne seraient pas directement concernés par ce plan, c'est aussi un peu votre approche que vous nous disiez juste avant l'émission, Mohamed Mechmash, d'AssezLeFeu.
Ben oui, tout à fait, c'est que ce plan, entre nous, et puis quand j'entends le plan espoir banlieue, on a l'impression que le mot espoir et banlieue viennent d'une autre planète, qui ne font pas partie de cette France. Donc quand on sort encore espoir, ça veut dire que de ce côté-là, il y a une partie de la population qu'on va exclure, parce qu'encore une fois, on s'adresse à une catégorie de jeunes, mais dans ces quartiers, je suis désolé, il y a aussi d'autres personnes qui y vivent, notamment, je parlais tout à l'heure des parents, mais je pense que c'est un axe essentiel, si on veut recréer effectivement un socle familial et serein au sein de la famille pour pouvoir effectivement accompagner au mieux ces enfants qui vivent dans ces quartiers, je pense qu'on a quand même oublié de parler un petit peu des acteurs principaux qui sont les parents, quoi.
Pascal Canfin, Alternatives économiques, votre réaction à vous ?
Oui, je voulais revenir un instant sur la question du chiffrage, qui est centrale. Les réactions des auditeurs que vous évoquiez le montrent bien. Et effectivement, c'est un grand élément de déception. Simplement rappeler quelques éléments de contexte. Lors de la campagne, Nicolas Sarkozy avait parlé d'un plan Marshall pour les banlieues. Les États-Unis, le plan Marshall, c'était quoi ? C'était une aide des États-Unis à l'Europe. Et les États-Unis avaient dépensé plus d'1% de leur produit intérieur brut pour aider à la reconstruction de l'Europe. On a fait des petits calculs. Le milliard qui vient d'annoncer aujourd'hui, ça représente 0,05% du produit intérieur brut, ce qui fait qu'on est en dessous de divisé par 20. C'est une ambition par rapport au plan Marshall qui est divisé par 20 par rapport à l'ambition de campagne. Et puis un autre rapprochement qu'on peut faire, c'est ce milliard, même s'il n'a pas été rappelé aujourd'hui, c'était le milliard engagé par Fadel Amara il y a quelques jours. C'est le rapprocher des 15 milliards d'exonérations d'impôts qui ont été attribués pendant l'été à 10% de la population la plus riche. Et donc si on ajoute ça, et je reprends la question de l'auditeur sur les ZEP, puisque effectivement si on regarde par élève, l'État dépense moins par élève dans les ZEP qu'en moyenne, eh bien on n'a absolument pas de politique qui sera des politiques de discrimination positive vis-à-vis de ces territoires ou de ces personnes. On a une politique de discrimination négative qui continue.
Avant d'écouter Thomas Sauvadet sur le chiffrage ou le non-chiffrage, puisque vous l'évoquez, je vous donne quelques exemples de la façon dont les internautes ressentent les choses. Bakir à Saint-Ouen, c'est arrivé à 8:30, donc je présume qu'il a carrément regardé le président en direct à la télévision. « Je veux, c'est bien, mais où va-t-on trouver l'argent pour tout ça ?» Alors que déjà ici, nos associations ont vu baisser leur budget, écoles pareil, manque de profs, manque de matériel. Alors sans moyens, on ne peut rien faire, il faut quand même le dire. Ben voilà, c'est fait, Bakir. Et puis André, dans le Pas-de-Calais, il y a des choses très vraies dans ce qu'a dit le président ce matin, mais en tant qu'enseignant, je sais que deux éléments sont nécessaires pour faire ce qu'il dit. La volonté politique, et je pense qu'il l'a, je ne lui ferai pas l'injure de penser qu'il ment, mais il faut aussi des moyens, de l'argent, et là, patatras, les caisses sont vides, la croissance se fait désirer, la récession menace. Résultat, encore un grand risque de déception, alors que le diagnostic et le constat me semblent bons. André, donc, dans le Pas-de-Calais. Et vous, qui êtes, on l'a dit, chercheur au laboratoire Sésame, Thomas Sauvadet, comment prenez-vous les choses ?
Je pense que la récession, ce n'est pas pour tout le monde. Oui. Quand on parle de crise, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les parties, toutes les catégories de la population française qui sont en crise. Pour moi, banlieue, ça ne veut pas dire grand-chose. On parle de quartiers qui sont aussi dans les villes-centres des grandes agglomérations françaises. Et ce qu'il faut, à mon avis, c'est une politique économique sur le marché du travail, sur le marché du logement, qui s'adresse à l'ensemble des classes populaires en France, en milieu rural et en milieu urbain, et aussi aux classes moyennes, parce que depuis une bonne décennie déjà, les classes moyennes sont également touchées par des questions de précarité du travail, par des questions de loyers excessifs, par des questions de transport aussi. Mais je répète, les deux axes principaux, c'est le travail et le logement.
Sylvie, vous êtes... Oui, vous vouliez ajouter un
mot.
Oui,
je voulais rajouter, c'est qu'on oublie les dom-toms. Dans les dom-toms, il y a aussi ces quartiers. Et souvent, on pense à eux que quand il faut aller en vacances, et alors qu'il y a à peu près jusqu'à 50% de chômage des moins de 25 ans. Et pour le chiffrage, parce qu'on revient sur le chiffrage, c'est que aujourd'hui, j'ai entendu M. Sarkozy qui disait qu'il voulait d'abord s'attaquer à l'humain et pas au bâti. Il faut savoir qu'on a lâché 35 millions d'euros pour le bâti et que là, il y a à peine 1 milliard. 35 milliards, excusez-moi. Et il y a à peine 1 milliard qui est consacré à l'humain. Ça fait très peu, encore une fois. Quoi.
Sylvie, qui est là, vous êtes à Vaux-en-Velin, enseignante, je crois, vous aussi. Bonsoir, Sylvie.
Bonsoir. Moi, je suis sur Lyon, effectivement. J'enseigne à Vaux-en-Velin, en lycée. Je suis professeure de lettres. Moi, j'appelle parce que, tout simplement, ce plan banlieue, et notamment son volet éducatif, me semble être une hypocrisie totale. On annonce une volonté, soi-disant, pour l'éducation. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est tout à fait le contraire qui se passe dans l'éducation, et notamment en banlieue. Il y a, en ce moment, c'est-à-dire que le gouvernement a pour volonté affichée de réduire le nombre de fonctionnaires. Il est prévu de supprimer en 5 ans 80 000 emplois d'enseignants, ce qui est énorme, c'est-à-dire c'est 10% de l'effectif. En banlieue, nous, on a voté ces jours-ci ce qui s'appelle la DHG, c'est-à-dire la dotation horaire globale, et dans tous les établissements, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que on demande aux enseignants de faire beaucoup plus d'heures, on demande aussi surtout de réduire les classes. Ça se fait par des suppressions d'options. Alors, moi, c'est vrai que je suis professeure de lettres classiques, donc le latin et le grec, on se doute bien qu'en banlieue, ils font des... Ils ont des effectifs très limités. Ça va être supprimé. Si ce n'est pas cette année, c'est l'an prochain. Les langues rares, dites rares, c'est-à-dire qu'en banlieue, langues rares, c'est allemand et italien, hein, vont à terme être supprimées aussi parce que les enseignantes vont être obligées de faire des parts de service à l'extérieur. Et ça veut dire qu'à terme, les postes vont être supprimés. On supprime aussi des postes, c'est-à-dire que
on vous entend mal, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre sur la ligne. On a quand même compris l'essentiel, manifestement, ce qu'on disait tout à l'heure, côté moyens, financiers en l'occurrence. Le problème se pose. Je voudrais, puisqu'on parle des banlieues en général, des cités, vous demander au nom de Christian dans le Rhône si ça n'a pas aussi un caractère un petit peu réducteur. Christian qui nous écrit, alors peut-être l'un de nos invités pourra-t-il réagir. En tant que travailleur social, j'ai passé plusieurs années dans les quartiers nord de Marseille avant de venir... à vous en Velin, précisément, comme cette auditrice qui parlait à l'instant. Et Christian qui ajoute, il faut comprendre que si les banlieues, comme on dit souvent, ont le même genre de problème, emploi, discrimination, services publics, trafic en tout genre, les quartiers sont différents les uns des autres. On ne réagit pas de la même façon à Marseille, à Lyon, à Lille ou à Strasbourg. Et on l'oublie trop souvent avec des schémas trop réducteurs dans la presse ou à la télé. Vous êtes d'accord là-dessus, Pascal Canfin, d'Alternatives économiques, peut-être ?
Oui, tout à fait. Les banlieues, c'est quelque chose qui est extrêmement divers en tant que tel. Dans le numéro de février, l'Alternative économique, on a fait un entretien avec Claude Dillin, qui est le maire de Clichy-sous-Bois. Et il disait lui-même qu'entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, qui est voisin, juste à côté, les problèmes étaient très différents parce que la structure du tissu urbain était différente. À Montfermeil, on avait beaucoup de logements sociaux. À Clichy-sous-Bois, on avait beaucoup de propriétés privées avec des marchands de sommeil qui n'entretenaient pas du tout les copropriétés. Mmh. Donc là, typiquement, sur des vues de loin, vues de l'Élysée, ça semble exactement la même chose dans ces communes voisines. Le traitement à y régler est totalement différent.
Thomas Ovadé.
Ouais, je pense qu'effectivement, il y a du vrai, mais de là à dire que c'est très différent, il y a quand même des politiques globales qui affectent l'ensemble du territoire, les dom-toms y compris, et puis pas seulement aussi en France, hein. Les conditions de vie des classes populaires se dégradent dans beaucoup de pays avec ce qu'on appelle la concurrence, les délocalisations, etc. Il y a quand même des problématiques globales qui font que ce n'est pas le jour et la nuit quand même entre un quartier de Marseille et un quartier de Lyon, de Strasbourg ou Paris. Et heureusement, il y a des convergences et heureusement, il y a des politiques globales à mener et aussi des luttes politiques globales à mener. Maintenant, après, c'est sûr qu'on peut toujours affiner l'analyse, entrer dans le détail et opérer des distinctions.
Mohamed Mechmache pour passer le feu.
Oui, pour confirmer, c'est que quand on a fait le Tour de France et qu'on avait récolté ces cahiers de doléances. Du nord au sud, ils ne se connaissent pourtant pas, mais ce qui revenait en priorité, en tout cas, c'était les mêmes problématiques. C'est que quelque part, on était tous sur la même ligne d'onde. C'est-à-dire que ce qui arrivait en premier, c'était le logement, l'emploi, la discrimination, l'éducation. Voilà ce qui arrive en priorité. Et surtout pas, en tout cas, ce qu'on a voulu nous faire croire à l'époque, cette fameuse insécurité.
Non, ce sont effectivement les mêmes problématiques, mais quand vous interrogez d'ailleurs l'ensemble de la population, on retrouve ces problématiques. Donc je dirais que là, il n'y a pas de discrimination particulière. Mais le traitement en termes de politique publique doit être différent et doit être territorialisé. C'est un enjeu majeur en termes notamment de décentralisation des politiques publiques. Et c'est une question importante qui a été abordée d'ailleurs dans l'intervention de Nicolas Sarkozy, parce que même si sur la question des moyens, je pense qu'on sera tous d'accord, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a une mesure qui peut sembler intéressante si elle se réalise, c'est la fameuse coordination des actions de l'État, puisque aujourd'hui sur un territoire de zone urbaine sensible, c'est la définition administrative de la chose, on a 7, 8, 9, 10 intervenants de l'État, des sous-préfets à la ville, des sous-préfets en tout genre, à l'égalité des chances, des directeurs régionaux, des agences de cohésion sociale. Tout ça ne se met absolument pas en place. Et si ça se met vraiment en œuvre, il a prévu de mettre en place un agent qui va coordonner tout ça. Simplement, il ne faut pas oublier qu'en 91, on avait créé les sous-préfets à la ville exactement pour ça. Intéressant, mais reprenons un peu de recul. Il y a 15 ans, on a voulu faire la même chose et ça n'a pas marché.
François, vous êtes dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir, bienvenue. Vous vouliez parler du logement, je crois, plus précisément.
Oui, je vous appelle parce que je viens d'entendre vos invités. Et je constate qu'il doit y avoir au moins deux catégories de banlieues, puisque je m'explique, dans les Hauts-de-Seine où j'habite, c'est un département de plus en plus résidentiel,
oui.
Et plus précisément donc dans la commune où je suis.
À quel endroit ?
Donc Plessis-Robinson.
Ah oui, effectivement.
Le nombre de logements sociaux qui était de 68% il y a 20 ans est passé à 48%, donc sous le prétexte de mixité sociale. Et maintenant, il a même été décidé qu'un immeuble construit en 1989 qui comprend 65 logements sociaux doit être détruit pour faire place à 130 logements de standing. Mmh. Donc il y a quand même là une volonté très particulière. Donc ma question, c'est de vous demander, dans ces conditions, est-ce qu'il est inéluctable que les revenus modestes soient contraints de partir dans les banlieues les plus éloignées pour se loger? Et par la même, ces personnes se retrouvent alors confrontées à de plus grandes difficultés pour trouver du travail et aussi pour se déplacer en raison du manque de transport. Voilà, je vous remercie.
On va essayer de vous répondre. J'ouvre une toute petite parenthèse, mais qui est directement reliée à votre question et à ce débat. Avec le journal Le Monde, tous les mercredis, de ville en ville, on est déjà passé par Bordeaux, Lille, Marseille, Rennes. On était à Lyon il y a quelques jours. Et on nous pose également la même question. Autrement dit, ce n'est pas propre à la région parisienne. Il y a une auditrice qui disait, il y a encore 4 jours, effectivement, à Lyon, les plus démunis sont obligés d'aller de plus en plus loin. Je referme la parenthèse, mais manifestement, ce problème-là, on le retrouve quasiment sur tout le territoire. Thomas Sauvadet, pour répondre à cet auditeur, solidarité entre les communes les plus riches et puis celles qui comptent le plus de démunis, et
c'est pas
par choix. Hein.
C'est pas la logique des choses actuellement. Hein. La solidarité entre les plus riches et les plus pauvres, aujourd'hui, c'est pas trop le créneau, c'est pas trop l'air du temps, l'esprit du temps. Donc, effectivement, je crains que ben ça continue que
de en même temps c'est un peu la loi quand même, enfin la fameuse loi, la logique serait celle-là quand même.
Oui, ce sont des rapports de force qui ont abouti à un texte de loi, mais entre aboutir à un texte de loi et l'appliquer concrètement, ensuite il y a plein d'opérations intermédiaires, et aujourd'hui dans ces opérations intermédiaires la solidarité envers les plus pauvres elle joue pas.
Oui, non, mais justement, c'est effectivement sur les villes. Je vais prendre du côté de Neuilly, plutôt la Défense, où il y a d'énormes entreprises qui viennent s'y installer. Donc effectivement, on paye très peu d'impôts dans ces villes-là. Où est-ce que il y a des grandes sociétés qui s'y installent, et tous ces bénéfices, je suis désolé, il n'y a aucune loi qui dit aujourd'hui que cet argent ne devrait pas être distribué vers les villes pauvres qui n'ont pas les structures adaptées, c'est-à-dire ferroviaires, routiers, les axes routiers, et qui puissent effectivement permettre, à la limite, de pouvoir rééquilibrer le déficit. Donc ça, d'une part. Ensuite, sur le logement, je voulais revenir parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a l'histoire du PRU. L'histoire du PRU, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Parce que l'histoire du PRU, on ne dit pas tout ce qui ne va pas. On fait montrer ce qui va, effectivement, quand on monte le plan, et de ce qui va être, une fois que c'est détruit et reconstruit. Simplement, la loi n'est pas maintenue. C'est pas on casse un logement et on en reconstruit un. C'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les loyers ne sont plus les mêmes. On est en train d'exproprier des propriétaires qui, à l'époque, avaient acheté un appartement assez cher. Aujourd'hui, ils se retrouvent retraités. On est en train de les exproprier et ils ne pourront plus, à leur âge, redevenir propriétaires, malheureusement. Et on leur demande d'aller être locataires et de payer des loyers à 600 € alors qu'ils ont à peine des retraites de 600 €. Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'exclure des personnes? Et on s'aperçoit qu'on est en train de déplacer encore une population. On s'aperçoit que les villes qui sont en pleine agglomération parisienne, on essaie de récupérer effectivement du terrain pour qu'ils rentrent dans le Grand Paris, s'il verra le jour dans les années à venir. Quoi.
Merci de le noter au passage, parce que j'ai plusieurs internautes qui disent attention aux illusions d'optique ou aux erreurs de perspective. Bon, il y a les jeunes, certes, c'est les plus visibles, mais il y a également d'autres catégories, et qui citent notamment, il y en a un qui parle de seniors, enfin, on a bien compris, les personnes âgées et qui, effectivement, rencontrent des difficultés là-dessus. Pascal Canfin, d'Alternatives Natives Économiques.
Oui, je voudrais revenir sur la question précédente de l'auditeur sur la solidarité entre les communes, puisqu'on est à quelques semaines des municipales, et nous, on a consacré notre dossier à cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, une commune sur cinq qui devrait normalement appliquer la loi SRU préfère payer les sanctions plutôt que de construire des logements sociaux. Et c'est évidemment le cas de Neuilly, puisque c'est la commune qui
un
est
peu emblématique,
dans le périmètre de la loi SRU qui a le moins de logements sociaux. Donc c'est toujours intéressant de le rappeler. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre des territoires où il y a des intercommunalités qui fonctionnent et des territoires comme l'Île-de-France où on a au contraire des intercommunalités qui ont segmenté, puisqu'on a mis les riches ensemble et les pauvres ensemble. Le Grand Lyon, par exemple, évidemment tout n'est pas parfait, mais le Grand Lyon, dans l'application du plan Borloo sur le logement social, a réussi à convaincre les communes riches de l'agglomération de prendre plus de logements sociaux qui étaient détruits des communes comme Vaux-en-Velin ou Villeurbanne. Donc il y a eu un transfert de population et sur des territoires qui étaient pauvres vers des territoires qui étaient riches. Et ça, ça a été possible grâce à l'intercommunalité. En Ile-de-France, on est exactement dans le cas inverse, puisqu'on a des intercommunalités, et je vais donner l'exemple autour de Roissy, puisque vous disiez il y a des pôles économiques qui gardent la taxe professionnelle et les richesses qui sont créées pour eux. Et bien, autour de Roissy, on a quelques communes qui ont créé une intercommunalité, pays de France, Roissy, pays de France, je crois, qui est extrêmement riche. Et ils n'ont évidemment pour rien au monde voulu associer Sarcelles, qui est évidemment une commune pauvre, à leur intercommunalité. Et donc, on a Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, etc., qui ont fait une intercommunalité de pauvres. Et ça, c'est complètement déstructurant.
Donc, les chiffres ont fermé aussi, alors qu'on a le Rhinci à côté.
Tout à fait. Retour au standard avec Serge Malik, fondateur de SOS Racisme. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Votre réaction, alors, à vous ?
S'il vous plaît, je me suis fait tellement d'ennemis dans les 20 dernières années que je précisais que je suis cofondateur de SOS.
Cofondateur, d'accord, et non pas fondateur. Vous étiez plusieurs. En plus, vous avez raison, c'est tout à fait vrai.
Voilà. Écoutez, moi, ça, depuis une vingtaine d'années, j'assiste à quelque chose de très stupéfiant. D'abord, je dois préciser que ce que j'entends ce soir est intéressant parce que les questions sont intelligentes, intéressantes, et les réactions sont aussi intéressantes et intelligentes.
En même temps, on aurait pu le dire il y a 10 ans. Hein. C'est dramatique, oui. mais une loi ou deux entre-temps.
Oui. Voilà. Mais enfin, en gros, moi, si on prend comme point de départ les années 80 et donc la nécessité de la fondation d'un mouvement antiraciste, si aujourd'hui on fait un bilan, parce qu'on fait pas le bilan, personne ne le fait le bilan, vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, des actions qui ont été faites en dehors de ces séries de lois, de ces séries de jeux d'annonces, etc. Il n'y a pas eu de vraie prise de conscience, de vraie prise de position sur la politique sur la question des banlieues. Les banlieues, c'est une création. C'est une création politique, c'est une invention. Et c'est issu directement d'un problème français, qui n'est pas que français d'ailleurs, qui est un problème qui est généré dans le monde entier par un certain nombre d'éléments politiques. Et en France, on souffre principalement d'un racisme qui est un racisme d'État, d'abord, parce que je n'accuse pas les Français individuellement d'être des racistes, mais il faut bien employer les mots et les vrais mots. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu le mot discrimination, qui est un mot qui m'énerve beaucoup, parce que qu'est-ce que c'est que discrimination au logement ? C'est un propriétaire qui ne veut pas d'un noir ou d'un arabe. Qu'est-ce que c'est que la discrimination à l'emploi ? C'est un employeur qui ne veut pas d'un noir ou d'un arabe. Alors qu'est-ce que fait l'arabe, qu'est-ce que fait le noir s'il ne peut ni se loger correctement dans des conditions décentes et s'il ne peut pas travailler ? À diplôme égal, vous savez très bien qu'un arabe n'a aucune chance de là où un blanc... Alors si on commençait par traiter cette question-là...
Alors on va essayer de vous répondre, mais comme je regarde la pendule, il nous reste un petit quart d'heure. J'ai plusieurs courriels très courts dans les mains. Fred dans l'Hérault, pourquoi toutes les politiques de la ville depuis 20 ou 30 ans n'ont jamais marché, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique du gouvernement? Paul à Montpellier, où s'est-on trompé? Où est l'erreur de ces 20 dernières années? Que répondriez-vous, Serge Malik, en quelques mots? Et puis, je vais poser la question également à nos invités, parce que, encore une fois, bon, le président a fait ce dégagement, il a présenté ce plan ce matin, mais il y a 10 ans, ici même, au téléphone sonne, on avait le même genre de débat et le même genre d'auditeurs qui intervenaient. Comment expliquer ça, à votre sens?
Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je vais reprendre simplement les termes de l'intervention du journaliste qui a rendu compte de l'intervention de Sarkozy tout à l'heure.
Oui.
Il a commencé par quoi? Il a commencé par dire « Sarkozy a déclaré qu'il voulait nettoyer les banlieues, des bandes, des dealers, etc. » Autrement dit, Sarkozy comme préalable, et c'est là que j'insiste sur la question, sur la notion de racisme d'État. Monsieur Sarkozy, d'abord, désigne les habitants des banlieues, ou en tout cas les jeunes des banlieues, comme dealers, comme trafiquants, éventuellement comme terroristes, qu'il faudrait éradiquer. Je ne vais pas vous rappeler le Karcher. Si vous voulez, c'est un préalable. Ce préalable, les médias le font leur. C'est-à-dire que France Inter, sans malice, dit à la population entière, en tout cas celle qui l'écoute, Sarkozy va passer le Karcher dans les banlieues. Et ensuite, on annonce le plan banlieue de Fadel Hamara.
Il faut dire qu'Alain, tout à l'heure, a repris les propos du président tel qu'il a présenté son plan ce matin. Oui, si vous le permettez, entendu. J'aimerais quand même le point de vue également de ceux qui sont dans ce studio. Thomas Sauvadet, à votre sens, toujours sur pour répondre, parce que ça revient vraiment très souvent, où est l'erreur, là, depuis 20-30 ans, à droite, à gauche la politique de la ville, ça n'a pas marché.
Il faut préciser qu'on parle un peu vite quand on dit que, quelle que soit la couleur politique, parce
qu'essentiellement, c'est une coalition
de centre-gauche avec certains partis comme le Parti communiste et à droite l'UMP. Donc, c'est pas la totalité de l'échiquier politique qui a occupé le pouvoir à chacun leur tour. Deuxième chose, on peut pas résoudre cette question avec de l'argent public. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de transformer le secteur privé sur deux questions clés. C'est la pauvreté absolue qu'il génère, avec des gens qui ont des problèmes matériels tout à fait concrets, et la pauvreté relative qu'il génère et qui nourrit l'attractivité du business, entraîne des jeunes à vouloir consommer toujours plus et à faire les 400 coups pour y arriver. Et sur ces deux nerfs de la guerre, qui sont l'argent qui renvoie à la pauvreté absolue ou relative, il n'y a pas de véritable volonté politique, tout simplement parce que ça demande une réflexion énorme, un rapport de force énorme, un changement de civilisation presque, on pourrait dire, pour reprendre les mots de Nicolas Sarkozy.
Edgar Morin aussi.
Voilà. Mais ça, ce changement là, on n'est pas prêt du tout. On reste focalisé sur un système où c'est tout le temps la concurrence, la guerre économique, etc., où ils font consommer et entreprendre, etc. Et dans ces conditions, installer un panier de basket, développer les transports, rénover, mettre une couche de peinture sur un bâtiment, des politiques culturelles, sociales, c'est bien. Mais bien sûr, ça ne peut pas être suffisant et ça peut n'être que du rafistolage.
Pascal Canfin d'Alternatives Économiques, on écouterait bien évidemment le représentant là, c'est le feu. Pascal Canfin.
Oui, ça c'est une charge, je peux être que d'accord avec vous. En même temps, je pense qu'il faut aussi rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'il y a des politiques qui ont plus fonctionné que d'autres. Alors, ce qui est évident, c'est ce que disait Claude Dillin dans l'interview qu'on a faite de lui dans le mensuel, c'est-à-dire que tant qu'on raisonne uniquement sur des crédits...
Le
maire de Clichy-sous-Bois. Tant qu'on raisonne sur des crédits publics d'exception, c'est-à-dire 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, de toute façon, on est dans la goutte d'eau. Il faut savoir que la politique de la ville, dont on parle, vous parlez de bilan de politique de la ville, ça représente 0,5% des dépenses de l'État. Donc on peut très bien passer à 0,6, à 0,7 en faisant un effort fantastique. Mais si les 99,3% restants vont à l'encontre des intérêts des populations de ces territoires, ça ne sert à rien. Et donc il faut effectivement rentrer, il faut pas avoir une vision complètement négative, il faut rentrer dans le détail des politiques publiques parce que certaines marchent plus que d'autres. Mais en même temps, on ne va pas régler le problème de la discrimination et du manque de qualification des collégiens dans les zones urbaines sensibles uniquement par de l'aide aux devoirs. Il faut s'interroger de manière structurelle sur quelle méthode pédagogique, quel est l'impact du collège unique. Et là, on est au cœur des politiques publiques, on n'est pas dans de la marge.
Mohamed Mechmarach.
Écoutez, moi je dis simplement que s'il y a réellement une vraie volonté politique et une cohésion entre et en faire une priorité, je pense qu'on aurait pu peut-être régler le problème il y a peut-être 10, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Simplement, aujourd'hui, on a différents ministères qui sont assis autour de table mais qui ne se parlent pas et qui ne rentrent pas en cohérence les uns les autres. Donc c'est des éléments qui doivent s'emboîter les uns les autres. Et tant qu'on aura, et encore pire maintenant parce qu'aujourd'hui on note et on évalue ces ministres, donc on rentre dans une compétition monstre. Donc chaque ministre a intérêt à défendre son budget et à défendre au mieux le ministère qui avec ses missions. Donc je pense que tant qu'il n'y aura pas cette volonté, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, si on veut régler le problème du logement, il faut que le ministre de l'Emploi ça soit à côté, celui de l'Emploi, il faut que celui de la Santé il soit assis, celui de l'Intérieur aussi, celui de l'Éducation nationale, et à partir de là, il y a une cohérence totale qui fera en sorte que les éléments s'emboîteront les uns
mais
les autres.
Mais ça, vous ne l'avez pas entendu quand même ce matin, cette volonté politique en disant il va falloir qu'ils travaillent ensemble, qu'on dépasse un peu les rigidités administratives.
Mais encore une fois,
on entend
un effet d'annonce, encore une fois, mais qui ne s'adresse pas à une globalité. Je vous dis encore une fois, ça doit concerner un ensemble national et non pas, encore une fois, à une catégorie de population. Parce qu'on ne réglera pas, on ne fera que créer une nouvelle discrimination, je veux dire, ou une nouvelle forme de violence pour ceux qui, aujourd'hui, ne bénéficieraient pas de tout Je vais dire ses avantages et se dire, bah, aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'on se fasse remarquer, qu'on casse, qu'on brûle, pour qu'aujourd'hui, on puisse s'intéresser à nous ? Non, je pense pas.
Moi, je voulais rajouter juste que tous les ministres peuvent se mettre autour de la table, mais s'il n'y a pas derrière une vraie volonté politique d'aller chercher l'argent là où il est
on
et
est
transformer réellement la société, ça sera de l'argent public, des bonnes volontés qui feront des choses bien, mais qui ne seront pas suffisantes. Et sur la question des discriminations, je voulais rappeler que la première discrimination, elle est socio-économique et qu'un arabe bourré d'oseille, il est très bien reçu en France.
Et vrai, ça ne dérange pas d'habiter à Neuilly.
Il y a des exemples assez récents.
Pascal Canfin, un mot encore avant une autre.
Juste un mot pour dire que là, on est resté sur une logique de territoire. On parle des banlieues, des zones urbaines sensibles. Enfin, mais si on regarde sur les personnes, on s'aperçoit que la plupart des enfants issus de l'immigration, alors vous traînez ça depuis trois générations, je suis d'accord, c'est très énervant, mais c'est le jargon un petit peu habituel, mais ils sont majoritairement en dehors des quartiers sensibles. Ils sont majoritairement en dehors des ZEP. Donc il faut parler à l'ensemble de la société. Ouais. Cette discrimination, elle est aussi dans le discours de dire on va pointer les banlieues, il faut s'adresser à l'ensemble des territoires.
On est d'accord, c'est ce qu'on dit.
Vous avez tout à fait raison. Aziz, bonsoir, vous êtes à Paris, vous-même, bienvenue sur l'antenne.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je m'appelle Aziz, j'habite Paris et je suis ingénieur. En fait, je travaille, j'ai un peu plus de 50 ans. Je travaille depuis une trentaine d'années sans connaître du tout le chômage. Et je réagis au fait sur ce plan banlieue. Je trouve que le plan banlieue, enfin, c'est un plan sécuritaire. Donc Sarkozy, le président Sarkozy, est toujours dans une logique sécuritaire, et que ce plan, malheureusement, il est voué encore une fois à l'échec. Et que demandent les jeunes au fait de banlieue ? Ils demandent un travail et un logement décent. On voit des bacs plus 5 maghrébins et noirs qui partent, qui émigrent. Aujourd'hui en Europe, à Londres et ailleurs, qui trouvent dans les 15 jours ou en quelques semaines, ils trouvent un travail, alors qu'en France, ils sont toujours repoussés. Je pensais que le plan en banlieue, c'était plutôt pour inciter les entreprises à embaucher ces jeunes de banlieue, alors que le plan qui est annoncé par le président Sarkozy, c'est un plan qui va vers la guérilla des banlieues. C'est combattre les guérillas des banlieues. Et malheureusement, je suis inquiet pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir de ce que vont devenir justement donc toutes ces banlieues, parce que tout est fait pour que ces jeunes, en fait, soient encore
vous cherchez vos mots, mais on comprend le sens du propos, Mohamed.
Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là, par contre, on a chiffré au niveau de la sécurité. C'est ce qu'on a bien entendu. J'ai simplement l'impression qu'encore une fois, on a peut-être un discours parce qu'on arrive bientôt dans des échéances municipales et qu'on a peut-être aussi besoin de rassurer un certain électorat. Donc, on recommence encore une fois avec le côté sécuritaire parce qu'on a quand même bien insisté sur la voyoucratie, sur les voyous. Je l'ai entendu plusieurs fois. C'est ce qui est revenu souvent en redondance. Et quelque chose qui m'a quand même choqué, parce que tout à l'heure on parlait un petit peu de racisme et ainsi de suite, c'est concernant la diversité. Quand il a pointé haut et fort qu'aujourd'hui on n'aura plus d'excuses pour dire qu'on est discriminé, parce qu'aujourd'hui à la tête de la justice c'est Madame Adati, qu'à la ville c'est Madame Amara, et qu'au droit de l'homme c'est Madame Rabayad, et qu'elle parle comme nous et qu'elle nous ressemble. Je suis désolé, est-ce qu'on n'est pas encore en train de faire une nouvelle forme de racisme et de stigmatisation ?
Parce que tous les blancs ne parlent pas, comme Nicolas Sarkozy. Effectivement. Moi, je voudrais juste éviter une autre forme de discrimination qui serait de dire tout va mal, personne n'est capable de travailler dans ces banlieues. Même si on prend la catégorie qui souffre le plus du chômage, c'est-à-dire les jeunes de 15 à 24 ans, eh bien, un jeune, 6 jeunes sur 10 qui sont sortis du système scolaire, c'est-à-dire ceux qui sont sur le marché du travail, travaillent. 6 jeunes sur 10 qui sont dans les zones urbaines sensibles. Alors certes, c'est beaucoup moins que la moyenne des jeunes en France, mais il n'empêche qu'on a quand même une majorité de jeunes, même dans ces quartiers-là, qui sont en emploi trop précaire, etc., mais qui sont en emploi. Donc l'idée qu'ils seraient forcément en dehors de toute activité et qu'il faudrait forcément partir à Londres est un petit peu, à mon avis, rapide.
Merci de le préciser. C'est vrai qu'on est toujours un peu réducteur parfois. Vous voulez ajouter un mot, Thomas Sauvadet? Oui. Je pense qu'on aura le temps de prendre encore un appel. Oui.
Il faut aussi intégrer une problématique qui va être de plus en plus présente, c'est la différence entre le chômage et le travail précaire. Parce qu'on va avoir un taux de chômage qui baisse, mais pour quel type de travail? Alors, bien sûr, ça donnera lieu à beaucoup de communication. Vous voyez, nous avons fait baisser le chômage, les jeunes ici travaillent, etc. Mais concrètement, dans la réalité, c'est le système D.
Ouais. Je crois que l'histoire de la précarité, c'est vrai que...
Marie, vous êtes à Paris. C'est ça, à Paris aussi, vous-même, enseignante. Bonsoir, Marie, on vous écoute.
Oui. Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous appelle pour poser une question. D'abord, je suis dans des lycées de ZEP que je trouve très bien équipés.
Oui.
Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un comportement raciste vis-à-vis des élèves en fonction de leur origine. Il y a des élèves qui, lorsqu'ils font leurs études, ils arrivent à trouver un emploi. Mais certains ont un comportement qui franchement, est très difficile à supporter et qui n'aboutit pas, de fait, à la possibilité d'avoir un emploi après. Mais s'ils ont un emploi, s'ils font un BTS qui aboutit à un emploi autre chose que art plastique ou des choses comme ça, parce qu'il suffit pas d'avoir bac plus 5, il faut savoir quel bac plus 5, mais quand vous vous orientez vers les études qui mènent à un emploi, ils ont un emploi. Et je fais une petite parenthèse par rapport à ce qui était dit précédemment, il n'y a pas que tout le monde va en Angleterre, y compris... Il suffit d'aller voir l'émission d'envoyé spécial, les financiers qui sortent de Polytechnique, ils vont en Angleterre. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, quand on entend tous ces discours, on a l'impression... Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas ça qui crée la discrimination, alors qu'en réalité, moi, je n'ai pas le sentiment qu'elle existe, mais qu'il faut redire, bon...
Vous sentez quand même pas un petit peu, parfois, certains de vos collègues un peu démunis dans ces aides, madame?
Y compris moi, mais pas démunis par rapport à la discrimination.
Mais par rapport à certains élèves, aux individualités, c'est cela?
Par rapport à certains élèves qui, de fait, je ne sais pas, parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais n'ont pas d'attention, des choses comme ça.
Quelqu'un veut réagir? Il nous reste une minute, c'est pour ça que...
Sur la discrimination, je suis désolé qu'on ne le veut ou qu'on ne le veut pas, elle est bien là, elle est bien présente, et que je pense que ceux qui, en tout cas, la subissent... peuvent en parler le mieux, quoi.
Parce moi, je pense qu'il y aurait deux écueils à éviter, c'est de tout renvoyer vers des facteurs sociaux, et à l'inverse, de tout renvoyer vers des facteurs individuels. Il faut réussir à mixer les deux.
Thomas Sauvadet, conclusion, vous aussi, en quelques mots.
Je pense que la dame en question, rien que par le ton de sa voix, j'ai l'impression qu'elle a quand même, même si elle travaille en ZEP, un certain niveau de vie, et que si elle voyait un peu les tensions qu'il y a dans les familles ou dans les rues des quartiers difficiles, elle comprendrait peut-être mieux pourquoi ils ont un comportement, certains d'entre eux en tout cas, ont un comportement insupportable.
Merci à tous les trois, 20h dans quelques instants. Bonsoir.